France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, patrimoine, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 7 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Dans le studio avec moi pour animer cette émission, Marie, Cécile et Marie-Jo. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Chaque année, l'Université catholique se met en 4 pour un programme culturel des plus variés et destiné aux étudiants, mais pas que. On reçoit pour en parler la déléguée à la vie culturelle de l'université, Anne Proutot. On poursuit avec une nouvelle pépite dans Franche Culture, je la vois rougir d'ici, Marie-Josée Dine. Et vous serez invitée régulièrement dans l'émission. Aujourd'hui, vous nous présenterez votre coup de cœur lecture de la rentrée. Et tout de suite, du street art, art de l'instantané dans un lieu millénaire. C'est à la Collégiale Saint-Martin à Angers. Et c'est avec vous, Cécile, et votre invitée, Doris Coffi.
La palette de couleurs.
Cécile, vous décryptez pour nous, à contre-emploi, une expo qui peut rebuter ou enthousiasmer le visiteur.
En tout cas, elle m'a enthousiasmée. Moi, je l'ai appelée l'exposition « Waouh ». Le dragon, d'ailleurs, de Sainte-Marguerite n'en revient toujours pas. Sa paisible et millénaire demeure, qu'est la Collégiale Saint-Martin, a été envahie par des œuvres aussi étonnante que monumentale de street art. Doris Coffi, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directrice artistique, responsable de projet artistique chez Art Project Partner, et là, vous êtes là comme commissaire de cette exposition. 18 artistes ont eu carte blanche pour créer des œuvres inspirées par le lieu, il faut le dire, ce lieu magique. Mais c'est au premier abord, ça peut sembler à l'opposé du terrain de jeu des street artistes. Alors, pourquoi ce choix, Doris ?
Alors oui, effectivement, c'est à l'opposé. On est dans un lieu patrimoine, donc forcément, ramener de l'art de rue dans un lieu comme ça, c'est déjà un exploit en soi. Et pourquoi le choix de ces artistes ? Parce que c'était... Donc c'est le département et la Collégiale Saint-Martin qui viennent me chercher pour casser un peu les codes de la Collégiale Saint-Martin et de ramener du street art. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ces 18 artistes de façon assez cohérente pour pouvoir montrer un maximum de panels artistiques qu'on peut retrouver dans le street art.
Oui, parce qu'en fait, il y a de la peinture, il y a de la photo, il y a des mots. En fait, on a l'impression qu'il y a plein de techniques qui ont été utilisées.
Oui, c'est ça, du collage, du doodle, de l'anamorphose. Voilà, il y a du volume aussi, de l'art numérique. Voilà, il y a vraiment un peu tous les panels. Et voilà, l'idée, c'est qu'ils soient un peu seuls dans leur milieu pour que les gens comprennent bien la différence.
Oui, et qu'on voit, qu'on découvre vraiment ce que c'est que le street art, qu'on peut réduire parfois. Alors, les œuvres, je l'ai dit en introduction, sont monumentales pour certaines, énormes, énormes. Comment on a fait ? Je crois que c'est l'installation de cette exposition, ça a été toute une aventure.
Oui, ça a été toute une aventure parce que un gros big up à mon équipe de construction parce que effectivement la collégiale est très haute, donc c'était intéressant de penser volume, donc format XXL, sauf que la porte de la collégiale ne fait que 2,40 m. Donc pour rentrer des châssis de 5-6 mètres de haut et dont un de 17 mètres de long, ça a été très compliqué.
Très sport, parce que les œuvres sont vraiment très très grandes. Je crois que les artistes ont créé spécifiquement pour la collégiale et en s'inspirant de la collégiale.
Ouais, alors c'est ça qui a été compliqué aussi, c'est-à-dire que du coup, à cause des contraintes de la collégiale, on a dû tout faire à l'extérieur, donc dans mon atelier. Donc il y a eu la construction de fait en amont. Les artistes sont ensuite venus en résidence à l'atelier. Ils ont peint l'atelier, on a démonté et on a remonté à la collégiale. Donc c'était compliqué pour eux d'aller s'inspirer à la collégiale en visite et de revenir après à l'atelier pour la lumière, pour l'inspiration, tout, c'était sport pour eux aussi.
C'était sport pour eux aussi. Alors, on ne peut pas parler de toutes les œuvres. Elles sont très différentes. Bon, je vais citer par exemple Petite Poissonne qui a distillé partout des petits messages écrits. Il faut les chercher. Alors ça, c'est à l'inverse des grandes œuvres. mais il y a un petit jeu de piste. Et puis, il y a Ardif et ses animaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors Ardif, il a une particularité, c'est qu'il est aussi architecte de métier. Donc, on peut retrouver ça dans ses œuvres et je trouvais que c'était intéressant de le montrer. C'est-à-dire qu'il a une grosse technique de graphe et de peinture, mais aussi avec ses traits d'architecture, en fait. Donc, ça devient des animaux mécanimales.
Et avec un petit clin d'œil à l'Anjou, quand même.
Oui, exactement. Il a joué le jeu aussi d'aller chercher un oiseau qui était spécial, de notre...
Une petite mésange locale, je crois.
Ouais.
Alors, il y a une œuvre que les gens pourraient ne pas comprendre, ce sont les œuvres de The Blind. Il y a beaucoup d'humour et je voudrais que vous nous les expliquiez un petit peu.
Oui, alors The Blind, lui, il a sa particularité, c'est qu'il fait du graphe pour les non-voyants. Donc, ses œuvres sont faites en braille.
Oui, et on peut toucher.
Et on peut toucher, là, pour le coup. Et d'ailleurs, la phrase qu'il a écrite, c'est « toucher ».
Toucher.
Donc, c'est le fait de toucher, comme il a fait... en fait, les points de braille, il a fait des seins, des poitrines, en fait, des seins. Donc, c'est « et toucher » parce que c'est une poitrine, « et toucher » pour lire l'œuvre, « et toucher » aussi parce qu'il a voulu faire ça parce qu'on va tomber dans le mois d'octobre, et c'est pour le cancer du sein. Et donc, il y a un triple sens à tout ça. Et voilà,
j'ai trouvé ça très bon. Il n'y a pas que le premier sens qu'on peut voir au départ, où on peut se dire zut.
Bah, au moins, ça attire. Ça attire l'œil tout de suite.
Tout le monde
y
va.
Oui, mais moi, je n'aurais pas osé toucher quand même.
Bon, ben maintenant, vous pouvez, parce qu'en fait, il y a une symbolique derrière. Dans la crypte, alors là, on est carrément ébloui.
C'est de la lumière UV dans la crypte, oui. C'est l'artiste morne. Et là, pareil, je trouvais ça intéressant d'aller chercher cet artiste-là, parce que la crypte est très mystérieuse, assez sombre, avec une ambiance particulière. Et du coup, il fallait vraiment faire péter tout ça. Et le travail de Morne avec la lumière UV, je trouve que ça marche très bien.
Ça marche très bien. C'est pour ça que j'ai dit l'exposition waouh au départ. C'est que la taille des œuvres et la puissance des œuvres fait qu'on est étonné. On est étonné, on est un peu subjugué par tous ces volumes. Ça s'appelle « À contre-temps ». Est-ce que pour vous, c'est contre-nature de mettre... Oui, j'ai fait un lapsus, oui. C'est contre-nature de mettre des œuvres de street art dans un monument comme la Collégiale ? Ou est-ce que ça se répond ?
Non, moi je pense que ça se répond. Alors après, c'est vrai que c'est pas habituel et ça casse un peu les codes, mais en vrai ça se répond. Et le street art, il est très très vieux. C'est-à-dire qu'on peut retrouver même dans la Collégiale, on peut retrouver de la gravure. C'est le début du street art au final. Donc je trouve que ça se répond. Enfin, je vois par exemple le bestiaire de Codex Urbanus, ça marche très bien avec l'ancien bestiaire de la Collégiale. C'est à quelque chose près, c'est une
ce
continuité.
Quoi. On penserait presque aux gargouilles en voyant certains bestiaires.
Exactement.
Donc il y a des inspirations qui sont assez similaires. Il y a de la gravure aussi.
La gravure, c'est de la gravure dans la pierre du monument, en fait.
Oui, d'accord.
Du coup, ça répond un peu au côté street art d'aujourd'hui.
Cette exposition a aussi une particularité, c'est qu'elle accueille une première mondiale, la collection Money for Nothing 1001. Alors ça, c'est un vieux projet, un long projet, complètement fou, qui est en train d'aboutir. Là, il faut vraiment parler à nos auditeurs parce que c'est tellement particulier.
Oui, alors là, c'est le projet de Dominique Barlow, un collectionneur parisien, qui a lancé ce pari fou de récolter un maximum de billets. Donc là, il est rendu à, je crois, une soixantaine de pays dans le monde et de les faire ensuite graffer par les artistes. Donc il a commencé par l'art contemporain, parce qu'il est aussi un collectionneur d'art contemporain. Et donc ça va de Andy Warhol à Banksy, Obey, enfin... Toute une liste des artistes d'avant jusqu'à aujourd'hui où la collection continue. Quoi. Donc ça devient la plus grosse expo de street art au monde, en fait.
Mais
de collection
sur des billets de banque et parfois des billets historiques, des billets rares, des billets...
Exactement, ouais, y a beaucoup de billets qui ont une histoire. Il y a par exemple le billet du Congo, ça a été le dernier billet qui a été utilisé pour la traite des blanches, par exemple. Et voilà, y a, en fait, les artistes choisissent aussi leur billet en fonction de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent parler. En fait, c'est vraiment un chouette projet qui effectivement qui mérite d'être beaucoup mis en lumière.
C'est un projet qui dure depuis des années. Son objectif, c'est d'exposer 1001 billets parce qu'il n'aime pas les comptes ronds, je crois.
Oui, c'est ça.
Et l'exposition va partir voyager dans le monde entier. Donc, c'est une première à Angers.
Exactement, c'est une première à Angers, oui.
Très bien. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, cette exposition? Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message par cette exposition?
En fait, contrairement à d'habitude, où d'habitude, moi, j'ai des lieux qui vont être détruits, donc on peut se permettre de peindre sur les murs, de faire des trous. Là, c'était complètement à l'inverse.
Alors, je tiens à préciser nos auditeurs que vous avez fait organiser l'art au couvent dans un couvent qui allait être détruit. Donc, effectivement, voilà, les artistes en étaient donnés à cœur joie sur tous les supports.
Voilà, bon, on
ne peut pas faire pareil à la collégiale.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est le concept de base. Et là, il a fallu que je m'adapte. Et j'avais vraiment envie de montrer au public qui n'est pas habitué au street art à l'apprendre de la même façon qu'il prendrait de l'art contemporain, en fait, ou l'art muséal. Donc c'est pour ça que ce grand format, c'est pour ça ce choix d'artiste particulier, pour que le street art soit vu d'une façon différente, d'une façon, je veux dire, un peu plus classe, qui dénote un peu... vous comprenez ce que je veux dire.
Est-ce que ça a perturbé les artistes de sortir de la rue, justement, pour aller dans un musée?
Non, je pense que le propre même du street artiste, c'est qu'il s'adapte à tout. Donc non, je pense que eux, ça leur fait du bien aussi que le regard change un peu sur leur travail, je pense. Et puis bah rien que le fait que ça soit un nouveau challenge, ils prennent en général, ils sont assez friands de ça.
Oui. Alors il y a quand même du provisoire puisque certaines œuvres ne pourront pas ressortir, m'ont dit certains artistes, notamment les grandes photos.
Ouais, alors bah effectivement c'est du collage donc ça va être compliqué, mais j'ai pas dit mon dernier mot, on va voir.
Pour essayer de les préserver.
Pour essayer de les préserver, ouais.
Effectivement. Bon, en tout cas c'est une magnifique expo, vraiment je ne
Merci
peux que suggérer à nos auditeurs d'aller la voir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le street art, parce qu'en fait même si on ne l'aime pas, c'est extrêmement intéressant. Et il y a des très très belles choses. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y a des très très belles choses. Mmh. Doris Coffey, merci beaucoup.
Moi, je rajouterais, Cécile, je rajouterais qu'il y a aussi des médiateurs ou des médiatrices qui sont sur place.
Oui, bien sûr, ouais, c'est important. Il y a des médiatrices de la collégiale qui sont là pour faire des visites, qui accompagnent et qui expliquent un peu l'univers de chaque œuvre, parce qu'elles ont pu parler à chaque artiste et avoir vraiment le fond de... le fond de l'œuvre ou de leur personnalité. Donc,
oui, ça permet vraiment de décrypter à l'instant T.
Exactement, ouais, c'est important de faire les visites, ouais, je pense. Ouais.
À visiter avec médiatrice.
Ouais.
Donc, à Contre-Emploi, c'est une exposition à la Collégiale Saint-Martin d'Angers et c'est jusqu'au 31 décembre, je crois. Tous les renseignements sur le site de la Collégiale. Et tout de suite, on écoute les Pink Floyd avec l'iconique Money.
I'm in a $5 G first class travel.
France Culture continue sur les ondes de Radio Campus. Tout de suite, on poursuit avec vous, Marie, direction l'Université catholique d'Angers.
Avec nous en studio, Anne Proutot. Bonjour Anne.
Bonjour.
Vous enseignez la littérature française contemporaine. Vous êtes présidente de la Société des études camusiennes. Mais aujourd'hui, c'est votre casquette de déléguée à la vie culturelle de l'Université catholique qui nous intéresse. À France Culture, comme tous les ans, le programme est diversifié et très riche. On va s'attarder sur quelques points et on va s'attarder, là pour l'instant, on va commencer par le Festival des Retournées qui commence dès cet automne.
Oui, ben en tout cas, merci beaucoup de m'inviter. Donc, d'ici quelques jours, une très belle brochure rassemble tous les événements culturels donc, de l'année. Elle va apparaître bientôt. Et en particulier, oui, donc ce Festival des Retournées. Alors, le Festival des Retournées, c'est une tradition maintenant. C'est chaque année, au mois de novembre, nous accueillons 3 mercredis de suite, différentes troupes théâtrales, donc autour quand même du rapport au sacré. Hein. Les Retournées, c'est des personnes dont la vie est bouleversée. Alors, le premier spectacle, ce sera avec Sophie Galitzine, le 15 novembre, qui est déjà venue dans le cadre des Festivals des Retournées. C'est une danseuse, metteur en scène, comédienne. Et là, ça s'appelle « Faire corps ». Donc, c'est une question passionnante. Hein. Pourquoi l'Église, dit-elle, experte en humanité, nie-t-elle et redoute-t-elle à ce point le corps ? Donc, je pense que ça va être une pièce de théâtre très originale, un peu provocante et qui vient sur des thèmes actuels et dont on a besoin.
Parler et danser à la fois.
Oui, exactement, exactement. Ça, c'est le 15 novembre. Et puis, le 22 novembre, c'est autour de... Je ne sais pas si vous vous rappelez cette personne qui s'appelait Jacques Fesch.
Oui.
C'est quelqu'un qui, à la fois, était en prison, avait tué un homme. Bon, c'était accidentel, mais il avait quand même tué un policier. Et le temps qu'il passe dans la solitude de la prison va lui permettre de se poser des tas de questions essentielles et de vivre une expérience spirituelle très forte, dont Fitzgerald Berton nous rendra compte ce soir. Là, le 22 novembre.
Il sort d'une conversion ?
Absolument.
Une conversion en prison ?
Absolument. Et lui aussi, c'est un comédien qui travaille beaucoup avec son corps. Ça s'appelle « Dans 5 heures », les dernières heures de la vie de Jacques Fesch. Et puis, le 29 et 30 novembre, c'est autour de Christian Bobin. Ce cher Christian Bobin qui est mort vraiment prématurément, ce grand écrivain, oui, l'an dernier, grand mystique. Et c'est un homme, Gilles Crépin, qui viendra dans le cadre un peu, pas cosy, on dirait, d'un petit auditorium, nous lire des passages de Christian Bobin. Ça, c'est le 29 et 30 novembre. Il y aura deux soirées.
Ouais. Ce sont des lectures. Alors, les deux premières représentations, elles se déroulent où ?
Alors, ça se déroule dans l'amphibasin. Et puis, alors, si vous souhaitez, alors, il faut prendre des places, il faut écrire à l'adresse suivante, lesretournées@gmail.com pour avoir le programme et pour pouvoir acheter des places, réserver des places.
Voilà. Mais un festival qui roule toujours. Ça fait cinq ans maintenant.
Peut-être plus. J'avoue que j'ai pas révisé ça avant de venir à l'émission. Mais c'est toujours drôlement bien. Et puis, vous pouvez même venir au dernier moment. Il y a souvent des places. Comme c'est l'amphibasin, il y a presque 500 places. Donc,
Il y a de quoi faire. Donc, le festival des retournées, c'est, on va dire, l'événement phare pour la rentrée. Et on voulait aussi parler, là, maintenant, du prix Beduel.
Oui, ça aussi,
on en a parlé en aparté, là, avant l'émission. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est, le prix Beduel ? C'est quand ? C'est pour qui ?
C'est pour tout le monde. Parce qu'effectivement, vous le rappeliez en début de l'émission, tout ce que nous organisons à la Cato, c'est pour nos étudiants, mais aussi pour le public angevin. Et beaucoup d'événements sont gratuits. Alors, pas les retournées dont on vient de parler, mais autrement, en général, les conférences, etc., sont ouvertes à tous. Et donc, le prix Beduel, c'est un ancien recteur qui nous a beaucoup marqués à la Cato. Et nous avons donc créé un prix qui récompense une œuvre francophone qui témoigne du dialogue entre les arts et du rapport au sacré, les deux aspects. Et donc cette année, on a donné... Alors c'est sous la présidence de Le Clésio, le grand Le Clésio, qui est le premier à avoir eu le prix pour un ouvrage sur la poésie chinoise qui était venu à la Cato. Ça avait été une très belle soirée. Et donc là, c'est Anne Cibran qui publie chez Gallimard un livre qui s'appelle « Le premier rêve du monde ». C'est sur Cézanne. C'est une écriture magnifique. C'est sur Cézanne, et Cézanne qui a des problèmes de vue, hein, il est toujours en train d'essayer de peindre sa Sainte-Victoire, et il monte à Paris où il va rencontrer le grand Barthélemy Racine, qui est un des spécialistes de l'opération de la cataracte. Alors c'est vraiment un livre sur ce que c'est que regarder. Le regard, c'est magnifique. Sur, il y a une expression très belle, elle parle de mettre les yeux en patience. Donc elle vient ce jour-là, à 18h, c'est vraiment des jolis.
Elle a eu le prix Beduel.
Elle l'a eu.
Il a été décerné.
Il a été décerné.
C'est là que je voulais savoir comment est-ce qu'on le décerne ce prix.
Eh bien, on tire au... Non, il y a un jury. Il y a d'ailleurs il y a un pré-jury dont fait partie Marie Jodine, qui nous parlera tout à l'heure. Et puis, il y a un jury qui commence son travail au mois de janvier avec une présélection de 6 ouvrages, 6 ou 7 ouvrages qui ont cette ligne éditoriale avec des personnalités extérieurs, des écrivains qui sont justement sur ces domaines un peu artistiques, et puis personnel de la Cato et 2 étudiants qui sont souvent très importants.
Donc, qui change d'année en année.
Voilà, absolument. En tout cas, les étudiants sont chaque fois nouveaux et on se voit 3 fois dans l'année. Et on décerne en juin et on fait notre belle soirée.
Donc là, ça va être la soirée,
Le 6 novembre à 18h, avec des étudiants de musicologie. C'est très court, et une interview avec Anne Cibran, possibilité d'acquérir son livre dans la foulée. Amphibazin.
Donc c'est Anne Cibran, la lauréate, et le titre de son livre, c'est
Le premier rêve du monde, paru chez Gallimard.
Paru chez Gallimard.
Vraiment très beau.
C'est
livre.
La saison des prix, on en a un aussi à Angers, le prix Beduel à la Cato. Alors, à cette question, à qui s'adresse le plus Beduel, elle en appelle une autre. Votre programme culturel à la Cato, je veux savoir comment vous le concevez. Alors, vous l'avez dit, il est pour tout le monde. Les étudiants de la Cato principalement,
c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous dire, il y a tellement, vous savez, il y a énormément de facs, il y a énormément de et toutes les facs proposent leurs propres conférences. Ouais. On a une bibliothèque qui propose ses expositions. Donc déjà, mon objectif en tant que déléguée culturelle et avec mes chères assistantes Aurélie Chilo et Mallory Jarry, le travail, c'est déjà de faire écho de tout ce qui se passe à la Cato.
Oui, vous n'êtes pas forcément l'organisatrice, en fait.
Pas de tout. Mais nous avons...
Vous accueillez.
Voilà. Nous relayons beaucoup de certaines conférences, certains concerts. Et puis, nous avons nos espaces à nous. Par exemple, ce prix littéraire, le festival des retournées. Par exemple, les midis de la Cato, où on peut notamment, par exemple, liser pour vivre. Il y en a un qui aura lieu le 17 septembre à la bibliothèque universitaire. Tous ceux qui aiment...
Les midis, c'est tous les mardis, jeudi.
C'est beaucoup moins souvent que cela. Ouais. C'est pour ça que j'encourage, en tout cas, tous ceux qui sont intéressés par ce dont nous parlons. Ils peuvent soit venir à la Cato, soit écrire au service.culturel.uco.fr. Ils donnent leur adresse mail et ils recevront la brochure. Et ils recevront chaque mois ce qu'on appelle le Culturuco, qui rassemble tous ces événements, donc à la fois le soir et certains le midi. Donc le prochain, Lisez pour vivre, c'est une phrase de Flaubert, c'est à 12h30 à la BU le 17 septembre.
17 octobre, vous voulez dire?
Oh, 17 octobre, oui, merci. Hein, 17 octobre, parce que 17 septembre, voilà, heureusement que certains...
on y va, c'est pour ça, on est au point parce qu'on y va. Donc c'est 12h30, voilà. 13h30.
13h15 même, 13h15, et on entend parler des parutions contemporaines, la rentrée littéraire.
Oui, pour chaque Lisez pour vivre, il y a un thème.
Il y a toujours un thème.
Donc on vient avec...
peut parler, ou pas, on d'ailleurs. Peut se taire. Oui. C'est ça qui est bien. Voilà, on peut juste venir écouter.
Très bien. Donc ça s'adresse à tous. Vous essayez de toucher tous les Angevins.
Absolument. Absolument. Et c'est très important pour nous d'ouvrir l'université sur
Alors j'aimerais finir assez vite avec le cycle de conférence Résonance qui commence en janvier jusqu'à avril 24.
Eh bien, donc très prochainement, vous en aurez le programme. Je le dis en un mot puisqu'on est pressé. Jacques Gamblin a dit oui, Éric Fotorino a dit oui, Patrick Boucheron a dit oui, et puis dans tant d'autres belles choses qui se préparent, bientôt le programme paraîtra.
Merci beaucoup Anne.
Donc on rappelle les propositions culturelles qui sont ouvertes à tous, parfois sur inscription. La bibliothèque accessible au public, et rendez-vous pour tout ça sur le site de la Cato.
Tournez la page.
Marie-Jo, vous êtes une dévoreuse de livres, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt vous. Le Banquet des mots, ça c'est votre blog, et puis Fumée de lecture, votre compte Instagram, ça en dit long sur votre appétit. Vous n'êtes pas une digital native, mais vous manipulez diablement bien les fils de la toile que vous alimentez toujours avec assiduité et enthousiasme au fil de vos lectures. Alors aujourd'hui, et j'espère que vous en prendrez l'habitude avec nous, vous nous faites l'amitié de venir nous présenter votre coup de cœur de cette rentrée littéraire. Croix de Cendre, je crois, vous.
Oui. En lisant Télérama fin août, j'apprends la sortie du roman d'Antoine Sénanc, intitulé « Croix de Cendre » aux éditions Grasset. Retenu sur la première liste du prix Goncourt 2023, c'est mon premier coup de cœur de cette rentrée littéraire. Et je suis d'accord avec Claire Chazal, ce livre est brillant. Avant de rentrer dans le sujet du livre, je voudrais vous parler de cet écrivain, également neurologue. Le docteur Moulonguet, son nom en ville, a choisi comme nom de plume Sénanc, qui fait penser à l'abbaye de Sénanc, dans le Vaucluse, datant du XIIe siècle. J'y vois un signe de sa personnalité qui lui tient à cœur, la spiritualité. En effet, après 30 ans de pratique médicale, il déplore ne pas pouvoir guérir les maladies dégénératives comme Parkinson, Alzheimer ou Charcot. Il est frustré, alors il publie en 2021 « Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit, non ». Il raconte qu'il s'est tourné vers les recherches scientifiques, non pas de miracles, plutôt à caractère religieux, mais de guérisons inexpliquées, dont un cas vaut son pesant d'or. Je résume. Le pape Jean-Paul II, atteint de Parkinson, décède en 2005. Une religieuse, sœur Marie-Simon-Pierre, gravement atteinte de la même maladie, Parkinson, se connecte souvent en pensée avec Jean-Paul II. Et un matin, soit 2 mois après le décès de Jean-Paul II, elle se voit totalement guérie. Son neurologue est estomaqué, mais elle explique sa guérison par sa télépathie avec le pape et dit « Je vivais quelque chose ». Pour Antoine Sénanc, qui martèle rester un médecin classique, c'est troublant et mérite d'être creusé. Il pioche encore et au vu d'exemples concrets, il en déduit que l'esprit immatériel n'est pas une sécrétion de l'organe qu'est le cerveau, mais le dépasse, et qu'une force de l'esprit peut jouer un rôle dans la médecine, cette science matérialiste. L'esprit et le corps peuvent dialoguer à distance l'un de l'autre. Et à l'heure de ChatGPT, qui pose en 3 secondes un diagnostic, lu par des ingénieurs en médecine « Que deviennent les médecins actuels ?», il veut conserver un avenir humain et passer le relais de la médecine au monde spirituel, profane, laïque ou religieux, quand la maladie est sans espoir. Ses confrères tiquent à ce sujet, mais il en remet une couche et cite des guérisons de cancer inexpliquées. Voilà pour la personnalité de l'auteur qui méritait un détour, à mon sens, car elle surgit dans ses écrits. Venons-en au livre « Croix de cendre ». En 1348, la peste noire déferle sur l'Europe avec des millions de morts. 20 ans après, en 1367, dans une France exsangue, on suit l'itinéraire de 2 frères dominicains envoyés sur les routes du Languedoc par leur prieur pour aller chercher le parchemin dont il a besoin pour écrire ses mémoires. Ces 2 hommes ne se doutent pas qu'un guépier les attend, car les mémoires du prieur renferment un secret crucial qui pourrait mettre en péril les fondements de l'Église. Et au Moyen-Âge, la puissance de l'Église s'appelle l'Inquisition. S'ensuit une épopée spirituelle et dramatique, très très bien écrite, qui se lit comme un roman policier, car on veut des réponses. La fin ahurissante m'a mis la tête à l'envers. Avant de conclure, je reviens sur ce titre, « Croix de cendre ». L'auteur écrit, page 27, que dans le cimetière sont plantées des croix, que le temps a peut-être brûlé, mais ces croix marquent leur place, demeurent, et prouvent qu'aucune trace ne s'efface jamais de la surface de la terre. Il extrapole dans une émission et rappelle que nous aussi, nous sommes scientifiquement éternels, puisque nous sommes composés de molécules et d'atomes. Or, les atomes de notre corps ne meurent pas et se reconstituent dans l'univers, comme par exemple dans le ver de terre ou le pissenlit. Bon, j'en conviens, cette allusion est loin d'être spirituelle, mais nous concerne tous. Donc, en gros, un livre d'aventure, de voyage, de trahison, d'amitié et une belle histoire d'amour du théologien Maître Eckhart avec une femme brûlée pour hérésie. Alors, le Brigoncourt, je vote pour.
Marie-Jo, merci. Merci à vous, Marie-Jo, Anne Proutot, Doris Coffi, Cécile, Marie et Marie pour la préparation de cette émission. Merci aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux, sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.